Paul Bourget, La menace. Chapitre 1. La clarté gaie du ciel froid et pur d'hiver entrait à plein par la porte-fenêtre du petit salon où Madame de la Guerre chavait, avec son fils, une conversation qui devait être bien douloureuse à tous deux, car de grosses larmes coulaient par instants sur le visage du jeune homme, tandis qu'il allait et venait d'un pas énervé, et la physionomie de la mère exprimait une angoisse presque tragique. À 57 ans qu'elle venait d'avoir, Madame de la Guerche rappelait encore, par la régularité de ses traits et la sveltesse conservée de sa taille, la belle Henriette, du Paris mondain d'après la guerre, celle qui inspira et partagea tant de passions, qui se compromit avec l'élégant Sangiob, avec le beau Casal, avec le grand Videville, avec le petit Lioran, avec, comme disait cet autre, ils sont trop. Elle avait gardé ses 12 yeux bruns et les blanches dents de son sourire, mais ses yeux n'avaient plus jamais eu un regard de gaieté et ses belles dents jamais un sourire depuis la mort de son autre fils, l'aîné de ses deux enfants, emporté si vite, voici 3 ans, par une grippe infectieuse. Le chagrin avait soudain transformé la jolie femme sur le retour en une vieille dame toujours en noir, aux cheveux gris, aux prunelles graves, à la bouche triste, au teint pâli par la réclusion, aux rides plus creusées chaque jour par la mélancolie et qui n'allait plus dans le monde. Par quelle anomalie cette affection passionnée pour ses enfants s'est-elle conciliée avec des habitudes de galanterie si prolongées? Car l'histoire Lioran n'est pas très ancienne. La vie des femmes les plus décriées a de ces problèmes insolubles. Pour n'être pas explicable, les fêtes n'en sont pas moins les fêtes, et les pires dénigreurs du club auraient été obligés de reconnaître la sincérité d'Henriette s'ils l'avaient vue écouter son enfant, ce matin-là, au milieu de ces meubles un peu démodés qui ont, jadis, entendu tant d'autres discours. Cet entretien avait débuté par une confidence de l'ordre le plus humble, le plus bourgeois, celle d'une jalousie à son commencement. Mais pour comprendre quelle fibre secrète les phrases de ce fils, aujourd'hui unique, ébranlaient dans le cœur de la mère, il faut dire tout de suite que Madame de la Guerche était devenue, ou redevenue, depuis cette mort de son aîné, aussi ardemment pieuse, ou mieux, dévote, qu'elle avait été follement légère. La foudroyante catastrophe lui avait infligé ce frisson qui ne s'oublie plus, celui d'une mystérieuse justice suspendue sur elle. Sa conscience s'était réveillée sous la forme d'une terreur. Elle avait jugé son passé dans sa vérité et reconnu, dans ce coup affreux, une expiation. En subirait-elle une seconde? Serait-elle atteinte dans le fils qui lui restait et qui semblait réunir sur sa tête toutes les chances de bonheur? 30 ans, joli homme, bien marié. Il avait épousé, grâce à la diplomatie d'Henriette, une cousine de Casal, précisément, Mademoiselle Hélène Tournade, la fille du richissime industriel. Madame de la Guerche s'était félicitée, à cette époque, que son ancien amoureux fût resté son ami et qu'il présidât à la fondation du foyer de son fils. Avec ses nouvelles idées, ce souvenir l'épouvantait maintenant. Comment donc n'eût-elle pas été bouleversée jusqu'à son être le plus secret, tandis que Robert, son Robert, lui révélait dans son ménage une tragédie latente qu'elle soupçonnait depuis plusieurs semaines, sans avoir voulu y croire. Il était arrivé avec une angoisse dont la mère avait aussitôt discerné la trace sur son visage. Il s'était d'abord inquiété de savoir si son père était à la maison. En apprenant d'elle qu'il était parti pour la chasse et que leur tête-à-tête ne serait pas troublé, un soulagement avait détendu ses traits. Elle l'en avait taquiné. Il avait supplié de ne pas le plaisanter et il avait éclaté en sanglots. Puis, avec la décision de caractère dont sa noble physionomie portait l'empreinte virilement, solennellement, il l'avait, au nom de son frère mort, adjuré de faire une démarche qu'il allait lui demander. Elle avait promis, toute tremblante. Un récit avait suivi, encore confus et vague, celui d'un souper donné par Hélène et lui la veille, qui était le 6 janvier. Plusieurs jeunes ménages et quelques célibataires avaient fait la partie de venir tirer les rois chez eux. Le sort avait attribué la fève à Hélène, qui avait pris pour roi un des familiers de leur maison, Jean d'Albiac, un ami d'enfance de Robert. Rien qu'à prononcer ce nom, l'accent du jeune homme s'était soudain altéré et l'aveu avait été jeté, entrecoupé de larmes, de cris de colère. Robert était jaloux d'Hélène à cause de Jean d'Albiac, jaloux à en mourir, et il venait tout raconter à sa mère. Pour aboutir à quelle demande ? Madame de la Guerche en frémissait, et la pitié pour le désespoir de son enfant lui déchirait le cœur, tandis qu'elle l'écoutait gémir. « Ah, maman, j'ai tant hésité avant d'avoir recours à vous. Comprenez-moi bien, je n'accuse pas Hélène. Je vous répète que je suis jaloux et que je souffre. Mais je ne me reconnais pas le droit de soupçonner sa conduite. Je suis sûre qu'elle n'a jamais oublié ce qu'elle me doit, ce qu'elle doit à notre enfant, ce qu'elle vous doit, à vous qui avez traversé la vie sans une tâche. » Il ne remarqua point que Madame de la Guerche fermait les yeux. Cette preuve que son fils avait cette foi en elle lui faisait mal. « Oui, insista-t-il, je suis sûr d'Hélène comme de vous. Elle est innocente. Hélas, il ne suffit pas qu'une femme soit innocente, il faut qu'elle ne soit pas soupçonnée. »« Hélène ne l'est pas, interrompit la mère vivement. Je le saurai, l'écho m'en serait revenu. » »« La calomnie ne fait pas son chemin si vite, répondit le fils. Pensez, Hélène n'a que 25 ans. On ne parle pas d'une très jeune femme avant qu'elle n'ait fourni beaucoup de prétextes à la malveillance. Tout de même, si l'on ne commençait pas à s'apercevoir qu'elle a du goût pour Jean, les inviterait-on toujours ensemble ? Avant-hier, chez les Corcieux, quel voisin de table lui avait-on donné ? Jean. Il y a 3 jours, nous allons aux Français dans la loge de Madame Étorel. Qui avait-elle invité avec nous ? Jean. Il y a 5 jours, mais il faudrait reprendre le détail de toutes nos semaines de cet automne et de cet hiver. Sont ce des signes, oui ou non, ces continuelles rencontres que nos amis leur ménagent ? Admettons que ce soit là de simples hasards et que le monde ne s'occupe ni d'Hélène ni de Jean. Il n'y a pas que le monde, il y a mon cœur. Vous ne savez pas ce qu'un homme souffre à constater, flottant autour de sa femme, une influence qui n'est pas la sienne. Les goûts, les idées, les lectures, les sympathies, les antipathies, tout chez Hélène est en train de changer, du petit jusqu'au grand. Et qui retrouvais-je encore à l'origine de tous ces changements ? D'Albiac. Je le connais si bien. Nous avons tant vécu ensemble. Tenez, c'est une misère, comme les coquetteries de ma femme, hier soir, à ce dîner des rois. C'est de misère qu'est faite la vie du cœur. Elle avait l'horreur des femmes qui fument. Elle fume, et des cigarettes de tabac russe, les siennes. Elle ne montait plus à cheval. Elle s'est mise à chasser, et dans quel équipage ? Celui dont il est. Vous me direz que j'en suis aussi. Pour moi, elle n'y est pas venue 3 fois en 5 ans. Pour lui, elle y est venue 10 fois cet hiver. Elle ne s'intéressait pas à la politique. Vous savez comme Jean est passionné dans ses partis pris. Elle allait même aujourd'hui. Il n'est pas jusqu'à sa toilette qu'il ne se transforme. Il a toujours aimé les femmes trop parées, les robes à effet, l'outrance de la mode. Hélène avait le goût si tranquille, si comme il faut. Elle s'habille pour lui maintenant. Le pire, c'est qu'elle ne s'en doute pas. Elle subit cette suggestion sans même s'en rendre compte. J'y insiste, je ne l'accuse point, je ne la soupçonne point. Si elle est amoureuse de Jean, c'est sans le savoir. Mais moi, je suis trop malheureux. Pourquoi ne lui as-tu pas parlé tout simplement ? Interrogea Madame de la Guerche. Dans ce que tu me racontes, il n'y a rien, 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 insista-t-elle, que des enfantillages. Cette scène d'hier au soir, par exemple, au souper, en quoi a-t-elle consisté ? En rien. Ton père s'y trouvait. Il n'a même pas pensé, ce matin, à me le raconter. Et c'est la preuve que tu te fais des imaginations. Mon père raffole d'Hélène, d'abord. Tout ce qu'elle fait est bien fait. Mais si vous aviez été là, vous ? Ah, maman, si vous aviez vu leurs yeux ! J'aurais vu... « Et je vois que tu es un fou, » reprit la mère. « Oui, c'est être un fou que de nourrir des chimères pareilles et de ne pas s'en ouvrir à la seule personne qui les dissiperait d'un mot. Vous vous seriez expliqué une fois pour toutes et tu ne te serais pas empoisonné l'âme bien inutilement. Tu attends de moi une démarche, m'as-tu dit ?» Elle n'eut point la force de dissimuler son anxiété pendant qu'elle ajoutait « Tu ne veux pas me demander de lui parler à ta place ?» Ce serait si imprudent, si dangereux. Imprudent, répondit le fils. Dangereux, pourquoi? Mais c'est vrai, maman, vous m'avez deviné. Oui, je suis venu vous supplier de faire cette démarche. C'est le seul moyen que je retrouve la paix. Allez, j'ai bien pesé le pour et le contre. Imprudent, dangereux, répéta-t-il. L'imprudence, ce serait d'avoir une explication avec Hélène, moi, dans l'état où vous me voyez. Le danger, ce serait de m'exposer à la blesser, pour toujours peut-être, par un mot qui m'échapperait. Il y a 6 mois, quand j'ai commencé à prendre ombrage de Jean, j'aurais pu m'en ouvrir à elle. Aujourd'hui, j'ai trop souffert. Je ne serai plus maître de mes nerfs. D'ailleurs, il ne s'agit pas de lui parler de ma part. Mes susceptibilités, mes pensées, mes jalousies ne comptent pas. Il s'agit de savoir, voilà tout. Écoutez-moi bien. Il avait pris dans sa main fiévreuse la main non moins brûlante de la pauvre Henriette. De 2 choses l'une, ou bien je nourris des imaginations de fou, comme vous dites. Il n'y a rien entre Hélène et Jean qu'une camaraderie trop familière. C'est possible. Que j'en ai la preuve, une vraie preuve, j'aurai la force de me dompter. Ou bien, elle a pour lui un intérêt trop vif, elle l'aime, et je veux le savoir encore. Je le veux. Une fois sûr, j'agirai. Je ferai appel à ce qu'il y a de meilleur en elle, à son honneur, à sa tendresse pour notre petite fille. Je l'emmènerai, nous voyagerons, elle sera la première, quand elle verra l'abîme où elle roule, à s'en arracher. Mais il faut que quelqu'un le lui montre, cet abîme, et ce quelqu'un, ma mère, ne peut être que vous. Ne me dites pas non! Ne me dis pas non, maman! Il s'était mis aux genoux de Madame de la Guerche et il la tutoyait, enfantinement, comme à l'époque où il était petit. C'est si facile! Tu lui écris de venir te voir. Vous êtes seule, tu commences par lui parler de la méchanceté du monde, du danger qu'il y a pour une jeune femme, apprêtée par ses attitudes, même innocentes, aux mauvais propos. Elle s'étonne, c'est elle qui t'interroge. Tu lui nommes Jean d'Albiac. Et si elle se fâche, dit la mère. Contre toi, interrompit le fils, ce n'est pas possible, tu as toujours été si bonne pour elle. Tu lui rapportes des propos qui t'ont été répétés. Tu ne mentiras pas, puisque je viens de te les redire. Tu n'as pas à dire l'origine. Mais si elle se fâche quand même, répéta Madame de la Guerche, si elle se bute, il arrive tous les jours qu'une femme à qui l'on conseille d'être prudente devient plus imprudente encore. Ces attitudes dont tu souffres, si elle allait les accentuer par esprit de contradiction. Elle est trop fière, répondit le mari. Elle ne fera pas cela. Elle le ferait, je te le répète, maman, que je le supporterai du moment que je serai sûre, entends-tu, sûre que ce sont des attitudes. Par toi, je serai sûre. Tu es si fine. En quelques minutes, tu lui auras lu jusqu'au fond du cœur et quoi que tu y aies lu, tu me le diras. Tu m'aimes trop, tu ne voudrais pas me mentir. Tu ne le pourrais pas, d'ailleurs. Oh, réponds que tu m'accordes ce que je te demande, que tu lui parleras. Sinon, sinon, implora la mère. C'est à Jean que je demanderai des explications, dit Robert d'un ton dur. Tu ne feras pas cela, s'écria Madame de la Guerche. Une dispute entre toi et lui, un duel, et l'honneur d'Hélène, tu n'y penses plus? Eh bien, continua-t-elle avec accablement, puisque tu l'exiges, je parlerai à ta femme. Et quand? Insista le fils. Aujourd'hui même. En me quittant, avant-hier, elle m'a annoncé sa visite vers les 2 heures. Je condamnerai ma porte pour que nous restions en tête à tête. C'est égal, conclut-elle avec une singulière angoisse. J'en suis pour ce que je t'ai dit. De belle-mère à belle-fille, une telle démarche a bien des dangers. Et, forçant sa bouche à sourire, « C'est pour toi, mon Robert, pour toi. Ah, je réussirai. »
Chapitre 2. Robert avait quitté le petit salon depuis longtemps et le trouble provoqué chez la mère par sa demande n'avait fait que grandir à mesure que se rapprochait l'instant qui devait la mettre en face de sa belle-fille pour cet entretien si dangereux, en effet. Elle s'était servie de ce terme et il traduisait trop bien sa pensée. Elle ne l'avait pas dite tout entière à son fils, par crainte de toucher, dans ce cœur déjà si inquiet, à une place trop malade. Des amis lui avaient révélé, depuis des mois, les coquetteries de sa belle-fille. Jusqu'où allait-elle ? Madame de la Guerche ne le savait pas. Mais elle savait qu'on en parlait, et elle-même avait eu d'abord l'idée de faire des observations à Hélène. Elle s'en était abstenue, pour des raisons qui demeuraient volontairement indistinctes dans son esprit. À maintes reprises, elle avait cru surprendre dans les façons de sa bru, si correcte pourtant, si affectueuse même, une imperceptible insolence, l'ironie tacite, cachée sous des formes irréprochables, d'une personne qui n'est pas la dupe d'une autre et qui en a pénétré les secrets. Quel secret ? Henriette savait trop bien son pari pour que la réponse fût douteuse. Elle s'était refusée à se la formuler avec précision. Nous sommes tous un peu ainsi. Nous nous rendons compte, par une épreuve quotidienne, que toutes les histoires de tous sont connues par tous, répétées par tous, et quand il s'agit d'un petit fait important de notre vie, nous nous acceptons de cet universel commérage, presque ingénument. La mère de Robert s'était dit « Non, il n'est pas possible qu'il se soit rencontré quelqu'un d'assez abominable pour me salir auprès de la femme de mon fils. Dans quel intérêt, d'ailleurs ? Je suis une pauvre vieille femme qui ne gêne plus personne. » C'était vrai, mais elle comptait sans les cruautés gratuites du monde. Ce sont les pires. On y est féroce, quelquefois par rancune, quelquefois par calcul, souvent par étourderie, plus souvent encore par ce besoin de paraître renseigné qui, chez les oisifs, devient un sport comme un autre. Un propos meurtrier est lancé avant que le médisant se soit seulement aperçu du coup empoisonné qu'il a porté. La victime, 99 fois sur 100, ne s'en aperçoit pas davantage. Ainsi s'explique la demi-illusion où peuvent vivre des mondaines aussi notoirement déshonorées que Madame de la Guerche. Elles se disent, comme celle-ci se disait encore, « Il y a si longtemps de tout cela !» Elles ne se doutent pas que l'accolement de leur nom au nom de tel ou tel de leurs favoris disgraciés se transmet d'une génération à l'autre avec l'indestructible durée d'une légende. Ni la mort, ni les scandales nouveaux, ni les bouleversements politiques n'y font rien. Il y aurait une guerre européenne, une autre commune, et si deux comparses de la société qui gravitent autour du jockey et du petit cercle se rencontraient dans une nouvelle émigration, ils ne manqueraient pas de dire, en dénombrant leurs relations, « Et Henriette de la Guerche, qu'est-elle devenue ? Vous rappelez-vous quand Casal ? Vous souvenez-vous que Videville ? N'était-ce pas du temps de Lioran ? Ces vérités de la plus élémentaire expérience sociale étaient bien connues d'Henriette qui voulait les ignorer. Elle l'emplissait, quoi qu'elle en eût, d'une inquiétude presque poignante lorsque la cloche d'avertissement fit retentir, vers les 2 heures de l'après-midi, le coup unique qui annonçait les visiteurs. Elle perçut le tintement à travers l'épaisseur des murs. C'était bien sa belle-fille qui arrivait, toute rose d'avoir marché au grand air, le teint délicieux de fraîcheur. L'or de ses cheveux blonds paraissait plus soyeux par le contraste avec la loutre de son chapeau et celle de sa jaquette. Elle avait, sur ses lèvres rouges, qui s'ouvraient dans un sourire et laissaient voir ses dents, sur ses joues où se creusaient des fossettes, dans le fond de ses yeux bleus si gais et si hardis, ce je ne sais quoi qui révèle la joie profonde de vivre. Elle embrassa la mère de son mari et, regardant la montre de son bracelet, « Je ne viens que pour quelques minutes, maman, » dit-elle, « savoir de vos nouvelles et parce que je vous avais promis. Je suis attendue. »« Je le regrette deux fois, » répondit Madame de la Guerche. En voyant Hélène de si avenante humeur, elle avait soudain dominé son malaise. « Oui, » insista-t-elle, « j'aurais eu besoin de causer avec toi un peu longuement et de choses bien sérieuses. Mais puisque tu n'as pas le temps... » « Des choses bien sérieuses !» répéta la bru. Elle avait regardé sa belle-mère et surpris sur son visage une mélancolie et une anxiété qui la touchèrent. Elle pensa que Madame de la Guerche se sentait malade et elle lui dit, avec une bonhomie qu'elle n'avait pas toujours dans ses rapports avec elle, « Bah, on m'attendra à mon rendez-vous. Ce n'est que Mathilde Mosée et Jean d'Albiac. Je dois les retrouver à l'exposition Fauriel. » J'arriverai une demi-heure en retard, voilà tout. Voyons, qu'y a-t-il, ma mère? Vous paraissez tout émue.
Je le suis en effet, ma chère Hélène, dit madame de la Guerche. Mais l'affection avec laquelle tu me parles me rend du courage. Tu m'aimes bien, n'est-ce pas, mon enfant? Et tu sais que je t'aime bien?
Pourquoi me demandez-vous cela, mère? Répondit la jeune femme sur le ton de mutinerie caressante.
Vous en doutez donc?
J'ai besoin de t'entendre me le dire pour être très sûre que tu ne verras, dans mes paroles, que tendresse pour toi et désir de ton bonheur.
Il s'agit justement d'une des deux personnes dont tu viens de prononcer le nom, continua-t-elle.
Elle tenait les mains d'Hélène tandis qu'elle hasardait cette parole. Elle sentit ses petites mains, jusque-là souples et abandonnées, se roidir tout à coup et se retirer de son étreinte. Les lèvres qui s'ouvraient dans un sourire confiant se refermèrent. Le bleu pâle et tendre des yeux devint mat et dur. Madame de la Guerche esquissa un geste de détresse et, s'interrompant de sa phrase, elle dit d'un ton découragé
« Tu vois, il vaut mieux que je n'aie pas avec toi cette explication. Tu es déjà offensée. »
« Pas le moins du monde, répondit Hélène. Au contraire, c'est moi qui insiste pour que vous continuiez. Je vais vous y aider. Vous voulez me parler de Jean d'Albiac.
En effet, c'est à lui que je faisais allusion. Je commence par t'affirmer que je crois à l'innocence absolue de vos relations. Mais tu ne peux pas empêcher que le monde ne soit malveillant, surtout à l'égard d'une personne comme toi, belle, riche, très en vue. Enfin, mon enfant, on en cause. Je sais qu'on en cause et j'ai tenu à t'avertir.
Je vous remercie, dit sèchement Hélène en hochant sa petite tête d'une façon hautaine.
Que l'on cause ou non de moi, cela m'est parfaitement égal. Je ne me priverai pas de la fréquentation d'un ami pour désarmer l'envie ou la sottise des bonnes langues qui se sont amusées à vous faire ces ragots.
Qui te parle de ne plus fréquenter un ami? Riposta madame de la Guerche, toujours avec la même douceur, presque implorante. Entre une familiarité qui prête aux commentaires et une rupture qui n'y prêterait pas moins, n'y a-t-il pas la place pour des rapports plus discrets, plus normaux?
Voulez-vous me dire en quoi mes rapports avec Jean ne sont ni discrets ni normaux? Interrompit la jeune femme.
Ces quelques répliques avaient suffi pour que sa froideur subite de tout à l'heure se changeât en une irritation voisine de la colère. Devant cette preuve trop évidente qu'elle apportait à cette discussion un intérêt passionné, un frisson saisit la mère. Y avait-il, entre Hélène et Jean, autre chose que des agaceries de sa part à elle et de sa part à lui qu'une cour sans conséquence? Elle aussi, comme son fils, elle voulut savoir, elle dit «
Je ne dresse pas contre toi un acte d'accusation. Je te devais cet avertissement, pour toi d'abord, et aussi... »
Elle hésita une seconde.
« Pour Robert. Oui, pour Robert. Il m'a paru préoccupé depuis quelque temps. J'ai peur qu'il n'ait pris ombrage de cette intimité grandissante. »
« Dites tout, insista Hélène. Il est venu chez vous ce matin, je le sais. Il vous a parlé de moi.
Je comprends. Il vous a chargé de me questionner.
Ah, quand je le verrai, je le saurai bien. Qu'il m'interroge, lui, il en a le droit. »
Et quand ce serait, répondit madame de la Guerche, quand il serait venu confesser à sa mère les susceptibilités de son cœur, serait-ce une raison de lui en vouloir?
Il t'aime, mon enfant, et c'est vrai qu'il n'est pas heureux.
C'est vrai aussi que j'ai tout de même un peu le droit de te conseiller.
« Pense donc, continua-t-elle, que j'aurais eu le devoir de répéter à mon fils les propos que l'on est venu me rapporter sur toi et sur d'Albiac. Je ne l'ai pas fait parce que je suis certaine que ce sont des calomnies. Mais, insista-t-elle, poussée par un irrésistible besoin, celui de savoir ce qu'il y avait réellement derrière les yeux muets de la jeune femme, fixés étrangement sur les siens, si je venais à jamais penser que ce ne sont pas des calomnies. »
« Alors ?» interrogea Hélène.
« Alors ?» répéta la mère, et elle n'acheva pas, épouvantée par le terrible sourire qui frémissait sur les lèvres de l'autre.
« Alors ?» reprit celle-ci d'une voix âpre. « Vous me dénonceriez à mon mari ?»«
Soit. Seulement, si vous vous mettez entre lui et moi, je vous avertis à mon tour que ce sera œil pour œil, dent pour dent. »«
Que veux-tu dire ?» Je veux dire que vous n'êtes pas la seule au monde à qui l'on rapporte des propos. On vous en a rapporté sur moi, et vous m'avez fait l'honneur de ne pas y croire, jusqu'ici. Je suis comme vous, et, jusqu'ici, je n'ai pas cru à ce que les mêmes amis, probablement, m'ont rapporté sur vous. Mais... » Avec une implacable ironie, celle d'une femme qui livre à une autre une bataille décisive et veut en finir, elle répéta les termes mêmes dont la mère de son mari s'était servie en les soulignant. « Si je venais à jamais penser que ce ne sont pas des calomnies, » et, après un silence, « je pourrais avoir avec mon beau-père une conversation intéressante. »« Avec mon mari ?» s'écria la belle-mère. « Tu commettrais cette lâcheté d'aller répéter des infamies que je ne connais pas, que je ne veux pas connaître, à mon mari ?»« Aimeriez-vous mieux que ce fût au mien ?» dit la jeune femme. « Mon Dieu, c'est une idée !» Et, comme pour éclairer d'un commencement atroce cette atroce menace, elle avisa sur une petite table une photographie de Casal jeune qu'elle prit dans sa main en disant « Tiens, c'est Casal ! Comme il était bien, j'aime encore mieux le portrait de M. de Vitteville que j'ai vu ici l'autre jour. Où est-il donc ?»« Hélène !» s'écria Mme de la Guerche en se redressant sur son fauteuil. Elle répéta, avec toute l'indignation de son cœur outragé, « Hélène !»« Que vous ai-je donc dit ?» répliqua la jeune femme en jouant la surprise. « Qui vous mette dans cet état ?» Puis, brusquement, elle se leva et, fichant ses yeux clairs dans les yeux de sa victime, qui plièrent sous ce regard perçant, « Nous avons mesuré nos armes, » fit-elle. « J'ai tenu à vous prouver que les miennes vaudront les vôtres si, par malheur, vous vous mêlez des affaires de mon ménage. » « C'est la première fois que vous vous en êtes occupé. Il faut que ce soit la dernière où je parle à votre fils. Je ne vous demande que la neutralité. Mais je la veux, je l'aurai. Je verrai qui me plaira. Vous avez vécu avec votre mari comme vous l'entendiez, je vivrai avec le mien comme je l'entends et vous ne me ferez aucun reproche. Vous ne me dénoncerez pas à Robert. Quoi que vous ayez prétendu, vous n'en avez pas le droit. » Chapitre 3. Il y a un an, tout juste, et jour pour jour, que ces deux scènes avaient lieu. Peut-être suffira-t-il de leur donner pour épilogue les quelques propos échangés l'avant-dernière nuit entre Jean d'Albiac et un de ses amis, le jeune Maxime de Portille, en sortant de tirer les rois chez une aimable dame du demi-monde, laquelle, ayant été favorisée par la fève, avait choisi Jean pour son roi. « Tu n'as pas été très gentil pour la pauvre Lucie, Jeannot. J'ai l'idée que tu regrettes ta reine de l'année dernière. »« C'est vrai, tu étais du souper chez les Laguerche, je l'avais oublié, fit d'Albiac. Tu te souviens comme Hélène allait, allait ? J'ai bien cru que ça y serait dans la semaine, ce soir-là. Je l'ai revue le lendemain avec la petite Mosée. Et puis, sa belle-mère meurt dans la nuit, subitement. » Toi ou moi, nous aurions bien cru qu'elle s'en soucierait, comme moi, de cette cigarette. » Et, jetant le papyrose qu'il fumait, rageusement, « Voilà une femme qui disparaît de Paris, qui voyage avec son époux, sous prétexte de le consoler. Quand elle revient, je vais lui rendre visite. Autant de degrés au-dessous de zéro qu'il en fait ce soir. » Il releva le col de sa fourrure en allumant une autre cigarette au feu de son camarade. « J'avais un vrai gratin pour elle, paraît-il, car elle m'est revenue, tu as raison, quand Lucie a levé son verre de mon côté. Et j'ai fait ma tête. C'est égal, pour une fois que j'ai travaillé dans les femmes du monde, je suis bien tombé. C'est inconvenable. »« C'est inconvenable, » répéta Portille. Comment ces deux aimables habitués de tous les petits théâtres et de tous les tripots auraient-ils pu deviner le drame qu'ils ont côtoyé, une mère mourant de douleur, se tuant peut-être, qui sait, parce qu'elle se trouve prise dans ce terrible dilemme, ou accepter en silence que son fils unique soit trahi par sa femme, ou bien être déshonoré dans l'estime de son enfant, et cette femme de ce fils, devant cette catastrophe, son ouvrage, saisie d'un tel remords qu'elle ne peut plus revoir sans horreur l'homme à cause de qui elle a commis cet assassinat. La secrète et mystérieuse équité des choses veut que la pauvre Henriette, dans cette suprême expiation des fautes de sa vie, ait du moins sauvé le bonheur de son fils. car Hélène s'est reprise à montrer à son mari un dévouement dont Robert ne saura non plus jamais la véritable cause. Il l'attribue à la conversation de sa femme avec sa mère et il n'est pas loin de se reprocher d'avoir hâté, par l'émotion où sa confidence l'avait jetée, la mort de celle-ci, attribuée par les médecins à une rupture du cœur. 1905.